Salut à toutes et à tous, toujours heureuse de vous retrouver sur Radio Campus Amiens 87.7. Pour votre info club sandwich du jour, je suis en compagnie de Colline et de Rémi à la technique. Salut à vous deux.
Salut, salut Stéphanie.
Vous allez bien? Avec ce beau ciel bleu et ce magnifique soleil, c'est fantastique.
Ça va très bien, oui, merci.
C'est cool. Alors aujourd'hui au programme, une interview concoctée par Colline, une petite chronique réalisée par mes soins, des brèves et bien sûr de la musique. Alors Colline, dis-nous tout, t'as rencontré qui?
J'ai rencontré David Durand de l'Université de Picardie Jules Verne et Cindy Jacobzik. Pardon, encore son nom, à chaque fois, Damien Métropole, qui sont venus nous parler Village des sciences et ce qu'ils mettaient en place dans le cadre de la fête de la science.
Eh bien, on écoute.
Aujourd'hui, je suis avec David Durand, enseignant-chercheur et délégué culture scientifique à l'Université de Picardie Jules Verne, et avec Cindy Jacobzik, de la direction Action culturelle et patrimoine d'Amiens Métropole. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, on va parler de la fête de la science, qui est un événement national et où des actions sont menées également à Amiens. Quelle est la thématique de cette fête de la science de cette année?
La thématique cette année, c'est Océan de savoir. Donc, c'est un thème qui est assez large pour que n'importe quelle discipline ou n'importe quelle association puisse se retrouver dans cette thématique. Donc on peut très bien parler de l'eau, mais on peut aussi parler des savoirs, des sciences humaines, des sciences dures, sans limite.
C'est un événement qui est national, mais à l'Université de Picardie-Jules Verne, il y a des événements qui sont organisés, notamment samedi 5 octobre à la bibliothèque Louis Aragon. Est-ce que David, tu peux nous en parler un petit peu plus?
Oui, alors ça fait quelques années qu'on est en lien avec la bibliothèque Louis Aragon. On a décidé de faire la fête de la science dans un lieu qui est un lieu de culture plutôt qu'un lieu de science. Pour pouvoir mélanger les disciplines. Et donc chaque année, depuis maintenant 2017 ou 2018, on propose des ateliers qui mélangent à la fois des mathématiques, de la géologie, de l'écologie, de la santé, et qui sont des travaux qui sont présentés par nos chercheurs ou par des étudiants de l'Université de Picardie-Jules Verne. Et puis on s'est associé aussi avec Amiens Métropole parce qu'ils ont des services que Cindy présentera par la suite. Pour mélanger un petit peu, pour qu'on ait des ateliers qui ne soient pas seulement des ateliers scientifiques, mais des ateliers divers.
C'est une journée qui est tout public, il me semble.
C'est tout public, donc c'est samedi de 10h à 17h30. C'est pour de la famille, hein, donc on peut venir à n'importe quel âge avec les enfants. Justement, les enfants sont toujours assez émerveillés des ateliers qu'on propose, parce qu'ils peuvent toucher, ils peuvent découvrir, sentir, regarder, écouter. Et donc, on a beaucoup de bons retours des enfants. Alors les grands peuvent venir aussi, bien sûr, hein. pas de soucis.
C'est ouvert à tout le monde.
Oui.
Du côté d'Amiens Métropole, il y a aussi donc des activités qui sont organisées, comme David l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Cindy?
Oui, en effet. Donc depuis 2019, on organise le Festival des sciences d'Amiens Métropole en copartenariat avec l'Université de Picardie-Jules Verne. Donc en fait, c'est un rendez-vous de rencontre qui est destiné exclusivement aux scolaires et qui met en gros à disposition un choix d'ateliers, de démonstrations, de manipulations scientifiques à l'occasion de l'événement de la fête de la science.
Quelles sont les activités qui vont être organisées là pour dans le cadre de la fête de la science par Amiens Métropole?
Alors cette année, on regroupe 8 structures culturelles et scientifiques, dont Amiens Métropole d'art et d'histoire, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, le Jardin archéologique de Saint-Acheul, le Jardin des plantes, la Maison de Jules Verne, le Musée de Picardie, le Parc zoologique d'Amiens Métropole et bien évidemment les laboratoires de recherche de l'UPJV.
Qu'est-ce qui va se passer donc dans ces lieux
Alors tout est regroupé au même endroit. C'est-à-dire qu'en fait, on propose un panel d'activités à destination des scolaires à partir du cycle 3. Et tout se fait à l'UFR des sciences, donc vraiment le pôle sciences de l'UPJV, rue Edmond Fontaine à Amiens.
Et donc ils vont pouvoir découvrir la fac de sciences. Et justement, là, je m'adresse à toi, David. Quel est l'objectif de montrer à ces enfants en fait, l'intérieur d'une fac de sciences?
Alors il y a plusieurs objectifs, hein. Le premier objectif, c'est déjà qu'ils arrivent à découvrir de la science en dehors de leur classe. On a toujours des bons retours, hein. Comme je le disais tout à l'heure, des élèves lorsqu'ils font des activités en dehors de leur école. Et puis pour nous, c'est important de leur montrer ce que c'est que l'université, ce que c'est qu'un chercheur, parce que quelquefois on a en tête, ou pas, une idée d'un chercheur ou d'un... ou d'un étudiant en sciences qui peut être un peu fantasmé. Et donc on leur montre l'arrière du décor de l'université, et puis aussi on leur montre que la science, et notamment les mathématiques, la physique, ça peut être aussi amusant.
J'ai vu que dans les activités proposées, il y a également une activité picarde. Alors, j'ose pas dire le nom, c'est l'histoire et chez Millard et Gout. Et je ne continuerai pas parce que mon accent est absolument catastrophique. Pourtant, j'ai fait du Picard. Mais est-ce qu'on peut, vous pouvez me dire un petit peu en quoi consiste cette activité ?
Alors oui, en fait, c'est une activité qui sera menée par un des laboratoires de recherche de l'UPJV. C'est les 10 ans, donc l'écologie et dynamique des systèmes anthropisés. Et en fait, c'est, pour traduire en français, c'est l'histoire des milliards de gouttes d'eau qui tombent sur la Terre. Donc en fait, c'est un petit peu inviter le regard d'écologues dans le voyage des gouttes d'eau au sein des écosystèmes des Hauts-de-France.
Bon, on est dans la thématique ici, hein,
oui,
puisque
tout à fait.
Ce laboratoire est 10 ans là. Donc l'étude des systèmes anthropisés, c'est en fait l'influence des activités humaines, par exemple, sur notre environnement, au niveau de la forêt, au niveau des migrations végétales ou animales, etc. Donc là, on est en plein dans la thématique, puisque quelle influence ont nos activités sur l'eau ?
Justement, toujours sur l'eau et l'océan, puisque c'est une partie de la thématique de cette année, il y a également naviguer avec Phileas. Alors, on est à Amiens. Donc, bien entendu, c'est une référence à Jules Verne, si je ne m'abuse, de Phileas Fogg. Et justement, là, encore une fois, de quoi il s'agit ?
Alors, c'est un projet qu'on a monté à l'université il y a un an ou deux, et qui consiste à mettre à disposition du grand public les collections archéologiques ou de textes que nous avons au sein de l'université. Donc, c'est un portail numérique qui permet de découvrir l'ensemble des collections qu'on a recensées, mais aussi des lieux, la citadelle de Doulan, la citadelle d'Amiens, avec des visites virtuelles.
Quelles sont vos attentes cette année ?
Sur l'événement scolaire, en tout cas, on avait quand même un but, juste pour rappeler, tous les ans, en fait, il y a un appel à projet qui est coordonné par l'association Ombellisciences dans les Hauts-de-France, et auquel on répond pour justement pouvoir proposer ce festival à destination des scolaires tous les ans. Et cette année, ce qui était très important comme critère, c'était l'inclusion au sens large du terme. Donc c'était pas nécessairement uniquement les élèves en situation de handicap, mais c'était aussi les élèves dans, par exemple, les établissements, dans les réseaux d'éducation prioritaire, dans les quartiers politiques de la ville. C'était aussi cibler les établissements ruraux, donc qui n'ont pas nécessairement l'information en premier. Donc tous ces publics-là étaient prioritaires cette année au niveau de l'inscription pour l'événement. L'événement est gratuit, mais en effet, ils ont eu une semaine avant les autres établissements pour pouvoir s'inscrire en avant-première. Et ensuite, on a diffusé aux autres établissements d'Amiens Métropole, et enfin, on a élargi un petit peu plus au niveau du département.
Comment est-ce que ça se passe ? Donc là, il y a un ambassadeur de la fête de la science, mais dans les Hauts-de-France. Comment est-ce que ça se passe pour organiser la fête de la science à l'université de Picardie-Jules Verne ?
Ça prend quelques mois, c'est-à-dire que avec Cindy, on travaille déjà depuis quelques années, mais là en particulier depuis quelques mois, puisque la principale problématique quand on veut organiser un événement comme ça, c'est trouver un lieu qui puisse accueillir du public. Gérer la logistique, alors ça, c'est tout bête, hein, de compter des tables et des chaises jusqu'à trouver des intervenants. Donc au mois de mars, on lance un appel à participation auprès de nos chercheurs. Et puis avec Cindy, nous, on essaie de faire quelque chose de cohérent. Et puis ensuite, il y a la logistique derrière de réservation, de PAC, on appelle ça des PAC, hein, qui permettent à des écoles d'assister à des ateliers qui mélangent diverses disciplines. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qu'on mène depuis à peu près le printemps, maintenant.
Je suppose que vous n'êtes pas que tous les deux pour organiser la fête de la science. Qui sont vos autres partenaires ?
Alors les autres, on est en effet les coordonnateurs, hein, finalement, de l'événement, mais on a toutes les autres structures qu'on a citées précédemment qui, elles, interviennent dans le cadre des ateliers, mais qui ne vont pas nécessairement coordonner l'événement. Donc elles vont apporter leur leurs ateliers, leurs contenus, pour voilà, pouvoir ensuite être opérationnel le jour J. Mais c'est comme ça qu'on procède depuis quelques années, ça fonctionne plutôt bien. C'est vrai que c'est pas mal de logistique, parce que pour mémoire, l'année dernière, on avait accueilli 1111 élèves en 4 jours. Cette année, ça se passe du lundi 7 au vendredi 11, donc le lundi 7 octobre, mardi 8, jeudi 10 octobre et en effet le dernier jour vendredi 11 octobre. Et on a établi des jauges d'environ une douzaine d'écoles par jour. Donc normalement, si tout va bien, on va accueillir un peu plus de monde que l'année dernière. Et c'est vrai que c'est un projet qui prend beaucoup plus d'importance depuis quelques années, puisqu'on accueille beaucoup plus d'élèves. Donc il y a aussi des établissements scolaires qui sont fidèles, qui viennent tous les ans depuis quelques années. Donc on est très content de les revoir d'une année à une autre, mais on leur explique aussi que voilà, on aimerait aussi toucher et cibler d'autres établissements scolaires, qu'on répond aussi à l'appel au projet avec ce critère de l'inclusion, et qu'on aimerait élargir aussi les horizons pour les éditions suivantes.
En dehors des activités proposées à des scolaires, est-ce qu'il y a autre chose, mais à destination du grand, enfin de tout public, en dehors de samedi 5 octobre ?
Oui, alors le vendredi 11 octobre, on organise un concert, un ciné-film, en fait, avec un groupe qui nous vient du Nord, enfin du Pas-de-Calais plus exactement, et qui vont jouer de la musique classique sur le thème de l'eau, avec des séances d'extraits de films aussi. Donc ça, ce sera le vendredi 11 à 20h à la Citadelle d'Amiens.
Depuis 2016, donc toujours, là on va toujours parler de culture, mais culture et science. Depuis 2016, il y a une bande dessinée tout public, donc on va en parler rapidement, qui raconte les recherches des doctorants et des doctorantes. Cette année, c'est avec Sylvain Laforêt. David, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de cette bande dessinée ?
Alors, chaque année, au mois de novembre, il y a un appel qui est fait auprès des doctorants, donc ceux qui poursuivent une thèse de doctorat en 3 ans. Et ils doivent faire une lettre de candidature pour proposer leur sujet de thèse. Et puis, donc, c'est un concours national, il y a assez peu de candidats retenus. Hein. Il y en a peut-être 10, je crois, sur la France. Et l'objectif est de présenter de manière simple, puisque c'est toujours l'objectif de la Fête de la Science, présenter de la manière la plus simple au grand public des concepts qui parfois sont compliqués. Et justement, tu le rappelais, depuis 2016, on peut dire que la bande dessinée, c'est un média qui est très adapté à la vulgarisation scientifique, hein, donc le fait d'expliquer simplement des travaux. Et donc à partir de novembre, il y a cet appel qui est fait, et puis une fois que les doctorants sont retenus, bah, ils sont suivis avec des auteurs, avec des dessinateurs plutôt, pour mettre en musique, alors plutôt mettre en BD, mettre en bulle, leurs travaux, et c'est ensuite au niveau de la Fête de la Science, on a ce petit recueil dans lequel qu'on peut feuilleter pour avoir une idée assez simple de travaux assez compliqués.
Et en dehors de la Fête de la Science, elle est disponible ailleurs aussi ?
Non, elle est éditée pendant la Fête de la Science, mais généralement on peut s'en procurer parce qu'ils sont mis à disposition, par exemple, soit à la bibliothèque, soit chez Embellition, soit dans les universités.
J'allais vous demander s'il y avait des étudiants qui mettaient la main à la pâte pour la Fête de la Science.
Oui, oui, oui. Dans les ateliers de mathématiques, géologie, écologie, physique, ce sont beaucoup des étudiants qui viennent. Chimie aussi, j'ai pas cité. Ils viennent en armée, hein, ils sont nombreux, et ça leur fait du bien d'avoir un premier contact justement avec du grand public, et savoir expliquer de manière simple ce qu'ils arrivent soit pour des doctorants à rechercher, soit pour des étudiants de licence ou de master, reproduire ce qu'ils, en tout cas réexpliquer ce qu'ils voient en cours.
Parce que l'objectif donc, de la Fête de la Science, c'est de vulgariser des concepts assez compliqués, mais pour tout public.
Oui, et puis pas seulement, c'est aussi permettre à des publics de s'interroger sur certaines problématiques. Alors là, par exemple, l'océan de savoir, on a quand même une problématique autour de l'eau qui est de plus en plus importante. On a eu l'environnement, l'année dernière on a eu le sport, alors c'était une thématique qui était plus joyeuse, mais en tout cas, qui n'avait pas autant d'enjeux. Mais ouais, le but, c'est aussi de s'interroger sur des problématiques en passant par des ateliers ludiques.
Un mot de la fin ?
Ben, venez nombreux.
Oui, venez nombreux le samedi 5 octobre à la bibliothèque Louis Aragon.
Merci à vous deux.
Merci.
Merci.
Et puis, bon courage pour samedi.
Merci beaucoup.
Merci.
Tu les as bien encouragés, c'est pas mal. J'avoue, à la fin, le petit mot bien sympathique. Du coup, si on veut en savoir un peu plus, si on veut avoir le détail de la journée.
On peut avoir toutes les informations sur le site de l'Université de Picardie-Jules Verne. Et je voulais rebondir aussi sur le cinéma. Il parlait de diffusion de ciné-concerts. Et donc au programme, ce sont deux films de Pierre Louffe et deux autres de Paul Bertrand. C'est autour du thème de l'eau, donc la pêche en pleine mer, etc. Donc je vous invite à aller le découvrir. Ces films, ils sont mis en musique par Bodim Jam, qui est un quatuor flûte, clarinette et harpe.
D'accord, merci pour ces petits détails. Merci pour ce sujet, c'était fort intéressant, surtout si on aime la science et l'eau. On va se quitter sur un petit morceau que j'affectionne tout particulièrement, c'est Rémi qui va nous lancer ça, c'est Sports des Viagra Boys, on se retrouve juste après. Basketball. Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens 87.7 et vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actu locale et associative. Alors ce matin, j'ai lu un article super intéressant sur un site que j'adore, c'est Agence Science Presse. Je vous le recommande chaudement, c'est un site qui... Il y a notamment une rubrique que je lis régulièrement qui s'appelle Rubrique Détecteur des Rumeurs. Et c'est vachement bien. Je viens de lire un sujet portant sur les désastres naturels et la désinformation. Alors bien sûr, il y a des rumeurs récurrentes assez anodines, hein, comme cette fausse image de requin en train de nager dans une autoroute inondée qui réapparaît depuis 2011 lors d'inondations majeures. Elle a même sa page Wikipédia. Elle est assez drôle, je pense que vous l'avez tous déjà vue. Mais d'autres rumeurs reprises ou adaptées d'une catastrophe à l'autre sont plus sombres. Par exemple, en 2023, lorsqu'une île de l'archipel d'Hawaï avait été dévastée par des incendies majeurs, une des rumeurs les plus virales était que ces feux avaient été allumés par des rayons laser émis par des satellites secrets. Rien que ça. Cette même rumeur avait circulé 3 ans plus tôt pendant les incendies en Californie. L'article évoque l'ouragan Helene qui vient de sévir dans le sud-est des États-Unis, faisant environ 159 morts. Une affirmation sur les réseaux sociaux veut qu'un programme gouvernemental secret appelé ARP, qui est en réalité un programme d'études de l'ionosphère, aurait été utilisé pour détourner la trajectoire de l'ouragan. Ceci afin qu'il ravage des comtés peuplés d'une majorité d'électeurs républicains. Une variante de cette rumeur lancée le 25 septembre par un influenceur, cette fois-ci conservateur, selon lui l'ouragan serait apparu de nulle part sur les cartes météorologiques. C'est évidemment faux, comme l'a vérifié l'agence France Presse. Il y a un point commun entre ces 3 dernières rumeurs et plusieurs autres. Leurs auteurs nient la réalité des changements climatiques et prétendent que tel ou tel événement a plutôt été causé par un programme gouvernemental secret. Ainsi, en 2023, des vidéos TikTok avaient prétendu que les feux de forêt dans le nord canadien avaient été allumés délibérément par des hélicoptères. La même année, d'autres fausses informations avaient mis les inondations majeures en Italie sur le compte d'expériences secrètes de géo-ingénierie. Dans un rapport publié en 2023, le groupe Climate Action Against Disinformation, une coalition de groupes de chercheurs et de militants, constatait que beaucoup de ces rumeurs recyclées d'un événement à l'autre depuis des années avaient en commun un déni climatique. Se pose alors la question, est-ce que cette désinformation pourrait avoir un impact sur la santé ou la sécurité de la population? A priori, oui. Par exemple, en 2018, la fausse rumeur d'une rupture imminente d'un barrage lors d'inondations en Inde aurait nui à l'acheminement des secours. Ou encore en 2017, aux États-Unis, dans le contexte des ouragans Harvey et Irma, les efforts d'évacuation des résidents auraient été freinés par un mélange de peurs irrationnelles. Une rumeur voulait que les responsables de refuge vérifieraient le statut d'immigration. Et de faux espoirs, une autre rumeur voulait que les survivants recevraient du gouvernement des génératrices gratuites. Mais en général, l'impact reste difficile à mesurer. Cependant, les recherches s'entendent sur le fait que les autorités réagissent trop tard, voire pas du tout. Or, la désinformation profite du vide informationnel. Pendant les premières heures, voire les premiers jours, l'information fiable en provenance des zones sinistrées est difficile à obtenir et les rumeurs remplissent ce vide. Quant à celles qui nient l'influence des changements climatiques dans les désastres naturels et leur préfèrent un complot gouvernemental, elles pourraient nuire aux futurs efforts de réduction des gaz à effet de serre, selon plusieurs experts. D'autant plus que les auteurs de ces rumeurs transforment les climatologues en cibles. Un reportage du New York Times noté en 2023 que ces théories du complot décrivent les experts scientifiques comme des membres d'une cabale mondialiste secrète. Conclusion, avec le réchauffement climatique, on n'est pas sorti de l'auberge. Vous connaissez, vous, ce site Agence Science Presse, pardon ?
Non, pas du tout.
Je vous conseille, hein, franchement, c'est tip-top. Je sais qu'il y a pas mal d'enseignants qui l'utilisent comme ressource, parce que justement, ils vérifient plein d'actus scientifiques, et c'est super bien foutu.
Et on mettra le lien sur le site de Radio Campus Amiens, puisque voilà, c'est important que vous ayez toutes et tous accès à cet article, à cette chronique et à ce site.
Allez, on va s'alléger la tête avec tes brèves collines, avec direction l'île aux fruits.
Ce vendredi 4 octobre, rendez-vous dès 18h30 à l'île aux fruits pour une soirée musicale organisée par le studio de production Cric. Situé en plein cœur d'Amiens, au 325 rue de Verdun, l'île aux fruits est une ferme maraîchère bio, qui fait aussi office de lieu de rencontre culturelle. Vous pourrez assister au concert de Sacha Stella et Freewild Bongolion, je ne sais pas si je le prononce bien, suivi d'un DJ set du Caméléon avant de profiter d'un open mic. Pour plus d'infos, c'est sur lilleaufruit.fr et sur leur Facebook.
Un peu de MMA.
Le BFC 80 est de retour pour une deuxième édition de son gala de MMA. C'est ce samedi 5 octobre au gymnase des 4 chaînes à Amiens. Les portes, elles s'ouvrent dès 18h et les combats commenceront à 19h30 avec un total de 12 affrontements. Les places sont disponibles à partir de 15€ pour les gradins, 25€ pour une place VIP et 60€ pour une entrée VIP avec repas à table. Il est conseillé de réserver en ligne, mais les billets seront également disponibles sur place dans la limite des stocks. Pour réserver, vous avez le lien sur le Facebook MMA Amiens Parcours.
Et tu crois qu'ils combattent dans des grilles, tu sais, complètement grillagées comme ça, non?
Je ne sais pas,
logiquement,
justement.
Logiquement, oui. Si c'est du MMA, classe. Ça devrait.
Ouais. Ouais, ça le fait. Et pour finir, un petit pique-nique au parc de l'Évêché.
Amiens Métropole lance sa deuxième édition du mois de l'alimentation avec un grand pique-nique festif au parc de l'Évêché. Samedi 5 octobre, toujours, de 11h à 17h, découvrez le projet territorial alimentaire à travers un marché de producteurs locaux, des animations autour de la santé et du sport, une ferme pédagogique ainsi qu'un concert du groupe L'Arrache Fanfare. Vous pourrez soit apporter votre pique-nique ou bien profiter des food trucks présents. Toute la programmation des événements du mois d'alimentation, elle est disponible sur le site d'Amiens Métropole.
Bah merci pour toutes ces actus, Colline.
Grand plaisir.
Merci à toi, Rémi, à la technique.
Avec plaisir.
On se quitte en musique avec The Worm, un titre de 68 de l'organiste de jazz Jimmy McGriff. Salut, salut.
Amiens 87.7 FM.